Voilà, donc on va passer à la présentation suivante, cette fois pour de bon, sur l'enquête, donc les résultats de l'enquête anthropologique menée par Yannick et son équipe sur la fécondité, la sexualité, l'APF dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest.
Bien, merci beaucoup. Je vais de façon extrêmement rapide et en essayant de rattacher ça à ce que vient de dire Luc de façon extrêmement cohérente. La question qui se pose, c'est donc bien évidemment cette question de la fécondité et de la réduction de la fécondité, pour des tas de raisons que Luc a parfaitement situées. Le problème, c'est que bien évidemment, d'un point de vue de santé publique et d'un point de vue de santé tout court, cette demande est parfaitement légitime. Le problème, c'est quel est le lien entre cette demande légitime et, disons, les structures de la vie quotidienne, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, dans sa quotidienneté et dans ses échanges extrêmement simples, extrêmement banals. Je vais prendre juste quelques exemples en reprenant des termes que Luc a utilisés. Par exemple, une grossesse désirée ou non désirée. Bien évidemment, il y a des moments où on a envie d'avoir des enfants, puis des moments où on... voilà. Moi, si par exemple on me demandait maintenant, est-ce que tu veux des enfants ? Je dirais non, parce que j'ai pris un peu d'âge, mais enfin, si ma femme était enceinte, après tout, pourquoi pas ? Bon, si l'enfant est là, ça me fera quand même plaisir, mais quand même, c'est pas tout à fait le moment. Vous voyez ? Alors, comment vous allez coter ça ? Est-ce que vous allez mettre oui ou est-ce que vous allez mettre non ? Vous voyez, ce sera un peu l'occasion qui fera le larron, comme on dit en français. Le problème, c'est que faire avec ça? C'est pareil pour, par exemple, la demande ou les demandes non résolues ou l'accès aux soins. Par exemple, si je suis une femme et que je veux aller demander de la contraception, si je suis une jeune fille, dans certains cas, on va me dire, de toute façon, tu dois arriver vierge au mariage. Je me dis, oui, d'accord, mais enfin, quand même, moi, j'ai vu d'autres choses, j'ai envie de m'amuser un peu, puis j'ai un copain, puis j'en sais rien, puis voilà. Alors, je me dis, je vais aller dans le planning familial. Le problème, c'est que le planning familial, éventuellement, c'est la copine de ma tante qui est médecin dans ces sociétés africaines d'interconnaissance, y compris dans les villes. Donc, est-ce que je vais y aller, pas y aller? Est-ce que je demande à ma tante qui va le dire à ma mère? Finalement, j'y vais pas. Voilà. Et je me retrouve avec un enfant. Éventuellement, je vais avorter. Alors, je connais quelqu'un, j'ai une copine qui s'est faite avorter, donc je vais lui demander où elle est allée. Elle me dit que c'est pas mal. Bon, allez, je vais le faire. Donc, vous voyez, comment vous allez ensuite, maintenant, quand il y a des milliers d'aventures comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Et le dernier point, par exemple, c'est cette question de l'adolescence. Vous voyez, l'adolescence, tout le monde parle de cette question de l'adolescence. Mais le problème, c'est que si je prends en France, par exemple, l'adolescence, c'est une période de l'âge qui n'existait pas jusque dans les années 1960. Il n'y avait pas d'adolescents quand on allait en apprentissage dans les usines. On était un enfant, puis après on était apprenti, et puis voilà, on était dans la vie active. En Afrique, l'adolescence, ça n'existait pas dans les campagnes. Il y avait des moments où on était un enfant, il y avait des systèmes initiatiques, et puis on basculait du côté, en tout cas statutairement, on était un adulte. Et donc l'adolescence, ça existe maintenant, mais c'est une nouvelle périodisation de l'âge. C'est un moment qui s'est construit depuis quelques années, où en fait on a une maturité physique et une immaturité sociale. Ça s'est construit parce qu'il y a de l'école, parce qu'il y a de la ville, etc. Alors bien évidemment, une fois qu'on a périodisé les âges de cette façon, il va bien falloir répondre à des problèmes. Mais vous voyez comment la catégorie de l'adolescence, c'est pas une catégorie naturelle. Il y a toujours eu des enfants, bien sûr, qui étaient adolescents au sens médical, c'est-à-dire qu'ils étaient pubères, entre, 10 ans et 14 ans. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas adolescents au sens social du terme, c'est-à-dire avec une forme de dissimulation de leur pratique, avec des choix qui étaient des choix qui leur convenaient à eux, et une façon de ne pas être forcément sous l'autorité des parents. Et donc, vous voyez, sur ces trois petits termes, et je pourrais en citer énormément d'autres, vous voyez comment, quand on réduit l'échelle, c'est-à-dire quand on essaye de voir dans le grouillement de la vie quotidienne comment ces vastes données prennent corps, ça devient infiniment plus compliqué, et comment les données qualitatives et les données quantitatives sont complémentaires. Alors, c'est pour essayer de progresser là-dedans, dans ces questions de variation d'échelle et dans cette manière de voir comment ces vastes données sont incorporées par les acteurs sociaux, que l'on a mis en place une enquête avec un financement de UNFPA. Et cette enquête, elle avait pour but d'essayer de travailler sur ces questions de fécondité. Oh, bien évidemment, la fécondité, on a, si la demande est légitime, il a fallu qu'on retransmette ça, qu'on le retravaille dans notre langage d'anthropologue. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé sur un certain nombre de domaines. Le premier domaine, c'est bien évidemment la question des histoires biographiques et des histoires corporelles des hommes et des femmes. C'est-à-dire comment on découvre son corps, comment on se construit par rapport à son corps, comment on découvre tout ce qui a trait à la reproduction et à la sexualité. Le deuxième large point, c'est tout ce qui est le rapport avec les systèmes décisionnels, c'est-à-dire comment on a le choix de définir sa vie ou comment on ne peut pas définir sa vie. Dans bien des cas, par exemple, même si on veut user de la contraception, si la belle-mère n'est pas d'accord, il vaudra mieux ne pas le faire, parce qu'on va prendre un risque que l'on sait sanitaire, mais il vaut mieux prendre un risque sanitaire incertain qu'un risque social éventuellement de répudiation, qui lui est tout à fait certain. On a travaillé sur les choix matrimoniaux. Comment on est passé, par exemple, de gens qui se mariaient parce que les anciens avaient dit voilà ta femme, voilà ton mari, à des choix qui sont des choix très différents. Alors on reviendra peut-être un petit peu sur ces questions, mais vous voyez que quand on regarde ce qui se passe dans les sociétés africaines, qu'est-ce qui est beaucoup plus important que UDFPA ? Eh bien, c'est les novelas brésiliennes. Parce qu'à la télé, on apprend à désirer, à vouloir un mari pour soi seul, à avoir une passion, à avoir des sentiments qui sont très différents. Et, par exemple, toutes ces campagnes sanitaires ne sont qu'un des petits éléments dans des dynamiques de changement qui sont infiniment plus larges et infiniment plus fortes pour les sociétés africaines. Ensuite, le dernier point sur lequel on a travaillé, c'est sur les capacités à négocier, c'est-à-dire comment, même dans les systèmes les plus déterminés, on peut toujours un peu se débrouiller. À la marge, on peut toujours dire « oui, je l'accepte, mais enfin, je suis un peu malade, je vais attendre et puis je le prendrai après ». Et vous voyez, on peut quand même avoir du jeu et on peut commencer à construire sa vie en fonction de ses choix. Alors, je ne vais pas trop gloser là-dessus, puisque l'ensemble des personnes avec qui on a travaillé va bien évidemment présenter des détails enfin, ou des vues transversales de ces questions. Je vais juste donner la façon dont on a travaillé d'un point de vue méthodologique. On a travaillé dans 4 pays, donc le Sénégal, le Mali, le Burkina et le Ghana. Et dans chacun de ces pays, pour avoir des données comparatives, on a travaillé avec une méthodologie similaire, c'est-à-dire des entretiens non structurés, mais avec un guide d'enquête, c'est-à-dire pas des questions auxquelles on répond par oui ou par non, mais des thèmes que l'on demande à nos correspondants de bien vouloir aborder. Donc on a pris, dans chacun de ces pays, on a pris 72 personnes. 72 personnes, il n'y a pas un calcul très puissant derrière tout ça, c'est simplement parce que ça donnait un multiple de 3, c'était assez pratique pour nous. Donc 72 personnes, et bien dans ces 72 personnes, on a pris des gens en milieu rural, en milieu semi-rural ou périurbain, enfin, c'est-à-dire ces populations juste urbanisées, et puis en milieu urbain. Et puis, bien évidemment, parmi ces personnes, on a pris à chaque fois des hommes et des femmes. Et bien évidemment, parmi ces hommes et ces femmes appartenant à ces différents milieux, on a pris des gens qui avaient plus de 60 ans, des gens qui avaient entre 60 et 30, et des gens qui avaient moins de 30 ans. Alors, vous voyez, on ne vous décrira pas tout ce que l'on a eu. Tous les entretiens ont été, bien évidemment, enregistrés sur magnétophone. Ils ont été entièrement retranscrits, donc informatisés, et retranscrits dans les langues nationales avec une traduction précise lorsque des thèmes étaient très précis. Si on parle, par exemple, de virginité ou si on parle de plaisir sexuel ou si on parle de choix du mari, il fallait noter les termes dans les langues vernaculaires parce que la langue est quelque chose qui forme la sensibilité et qui construit une certaine appréhension du monde. Donc, il faut travailler sur les catégories de pensée qui sont mises en œuvre par les personnes. Donc, ça nous donne tout un ensemble de choses. Et vous voyez que quand on regarde, par exemple, ce que dit une femme de plus de 60 ans ou un homme de plus de 60 ans, et quand on compare avec ce que dit une jeune fille ou un jeune homme de moins de 30 ans, eh bien, on a là quelque chose qui est de l'ordre de la diachronie. C'est-à-dire, on a la façon dont des termes, éventuellement, vont être les mêmes, et puis vont être cependant avec des signifiés, c'est-à-dire avec des contenus de sens différents. Et donc on va pouvoir mesurer le passage de l'histoire entre 2-3 générations. Et donc vous voyez, c'est comme ça que l'on a travaillé. Alors ça fait au total à peu près, disons, 300 personnes qui ont été interrogées. Ça représente en gros 2500 pages de notes transcrites et traduites. Et ça permet de construire un espace comparatif, puisqu'on a des langues comme pour le Sénégal, on a travaillé en Wolof, pour le Mali en Bambara, pour le Burkina, on a pris le Moré, puisque le Dioula et le Bambara appartiennent au même groupe mandingue. Et pour le Ghana, on a pris le Twi, qui est une langue, disons, véhiculaire du côté de Accra. Mais on a un espace comparatif à la fois parce que les langues sont proches et parce que les populations sont proches, mais aussi parce que de façon naturelle, alors à l'exception peut-être du Twi, mais autrement parce qu'on a dans bien des cas, par exemple, entre les populations mandingues du Burkina et les populations Mossi parlant Moré au Burkina, on échange les termes. C'est-à-dire quelqu'un qui parle très souvent les deux langues va dire « moi je vous dis ça en Bambara, mais si je le disais en Moré, je le dirais comme ça ». Et donc on a y compris le comparatisme qui est mis en œuvre dans les dialogues ordinaires des populations. Donc voilà à peu près la façon dont on a travaillé. Éventuellement, s'il y a des questions plus méthodologiques, on pourra revenir sur ces questions-là. Mais il va y avoir là... L'autre technique, et je le dis parce que ça me semble peut-être utile pour d'autres, c'est que bien évidemment, on a mis l'ensemble de nos résultats en commun, ce qui fait que chacune des équipes disposait de l'ensemble des entretiens et des travaux réalisés par l'ensemble des équipes. Ce qui faisait qu'au lieu de travailler sur un petit domaine, on avait l'accès à un ensemble de données beaucoup plus vaste. Alors chacune des équipes a choisi un thème transversal pour présenter des travaux. Donc Abdourahman Koulibaly du Mali présentera quelque chose sur les carrières contraceptives. Ensuite, Marie-Thérèse Arsens-Sommet du Burkina présentera quelque chose autour de la durée de la vie génésique. Ensuite, Fatoumata Anne présentera quelque chose sur séduction et sexualité. Et puis, Albert Awedoba et Déborah Atobra présenteront quelque chose à la fois sur... la question du langage de la sexualité et en même temps, puisque là, on a enquêté sur la façon dont les enfants percevaient ou pensaient leur avenir, ils présenteront quelque chose sur une étude que l'on a menée en parallèle. On a demandé dans chacun des pays à une centaine d'enfants de dessiner la famille telle qu'ils la percevaient lorsqu'ils seraient adultes et donc on a là quelques données sur... les choix des enfants. Et donc, c'est Déborah qui présentera cette donnée. Donc là, vous avez quatre présentations qui forment l'ensemble de ce travail, mais qui n'épuisent pas l'ensemble des résultats de l'enquête. Voilà.